Vous écoutez
RMC. RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, c'est l'after, c'est jusqu'à minuit, on est ensemble pour parler de foot, pour parler des différents thèmes de la journée et pour nous accompagner, eh bien il a fini sa carrière par 2 années en vacances en Grèce à Kavala, c'est Pierre Ducrot.
Pierre, bonjour.
Non.
Dire que j'ai passé deux dernières années de ma carrière en vacances, je peux pas te saluer comme ça, Timothée. C'est le premier after qu'on fait ensemble. Et déjà, tu.
C'est joli, Kavala.
Ah, c'est magnifique. Bon. C'est magnifique, Kavala, et je me suis régalé. Et tu crois pas si bien dire, en fait, j'étais pas en vacances. J'ai repris du plaisir à jouer au foot là-bas. Beaucoup. Parce que passion autour du stade, parce qu'un pays avec des matchs très très chauds, parfois un peu trop, mais ça va un petit peu avec pour moi, avec le football quand c'est un peu chaud. Et j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à jouer là-bas.
Un magnifique port de pêche, Kavala.
C'est vrai.
On est également avec celui qui a fini par sa carrière par 2 années presque de vacances, mais il avait choisi Auxerre. Ludovic Obraniak, salut.
C'est pas beau.
Non, c'est pas.
Il n'y a pas de port de pêche.
Il
y a Chablis pas loin.
Appelez-nous pour participer à l'after, pour réagir. C'est le 32-16. Et puis pour intervenir, évidemment, vous le connaissez, hashtag Direct Studio pour nous donner votre avis sur Twitter. On vous parlera tout à l'heure d'un autre hashtag. C'est le hashtag Mon joueur de cœur. On en parlera demain. On va aller choisir dans chaque équipe de Ligue 1 le joueur qui vous a le plus touché. Pas forcément le meilleur, pas le plus brillant, pas celui qui a marqué un but exceptionnel dans sa carrière ou celui qui a fait gagner des titres, mais celui qui a porté les valeurs, les couleurs du club pendant toute une saison. Vous pouvez déjà aller voter sur Twitter.
Ce sera à la fin de la saison ou chaque semaine par exemple? Non, à la fin de la saison.
Non, c'est le joueur de cœur de votre équipe. Par exemple, je sais pas, moi Saint-Etienne, Jérémy Jeannot.
D'accord, ok. Donc on l'annoncera dès le début de saison.
On va faire tous les clubs.
On en parle demain déjà, c'est pour demain, on peut déjà voter, vous pouvez aller voter sur le hashtag mon joueur de cœur et choisir, voilà, si je vous dis Nantes, est-ce que vous me répondez Frédéric Darrocha, voilà, pas forcément le plus brillant, pas forcément le meilleur.
Ah oui, d'accord,
mais
c'est pas sur les effectifs actuels.
Non, pas sur les
effectifs. Ah oui, d'accord, actuels. Ok.
C'est celui
d'accord,
qui okay. vous a touché, qui d'accord. vous a fait vibrer, qui vous a mis une petite larmichette sur le coin de l'œil. Voilà.
Okay.
Dans une petite heure, on va vous parler des dates du mercato à géométrie variable, que fait la police, est-ce qu'il n'y en a pas un peu assez de ces mercato qui se terminent pour les uns à certaines dates, pour d'autres plus tôt, plus tard. On parlera également de Patrice Evra. Qu'est-ce que vous retenez de la carrière de Tonton Pat? Mais avant cela, on va vous parler de Marco Verratti. Pourquoi? Parce que Marco Verratti a donné à RMC, à Loïc Tanzi, qui est en Chine, à Shenzhen, dans le sud de la Chine, une interview exclusive. On a évidemment les meilleurs morceaux à vous proposer de cette interview, avec notamment un Marco Verratti qui a parlé du PSG, qui a parlé de Thomas Tuchel, qui a parlé des responsabilités de Kylian Mbappé. Bref, on va débriefer un petit peu ensemble cette interview qui permet aussi peut-être de mieux comprendre ce Paris Saint-Germain à travers l'œil d'un joueur qui est depuis longtemps, qui a vécu des hauts, des bas avec ce club. Et c'est donc dans quelques secondes. Marco Verratti est à Shenzhen, dans le sud de la Chine, pour le Trophée des Champions. Il y a également eu des matchs amicaux, certains jouaient à Macao pour le Paris Saint-Germain. Et il a accordé à Loïc Tanzi une interview longue. Il s'est livré, un véritable entretien, document assez rare finalement avec Marco Verratti, qui s'est rarement exprimé aussi longtemps. On est très fiers de vous proposer évidemment cette interview. Et je vous propose de rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Vous me direz ce que vous en pensez, notamment Marco Verratti qui évoque... Eh bien, les ambitions du Paris Saint-Germain pour cette saison.
Je pense que dans les dernières années, on a un peu exagéré de la façon que si on gagnait pas la Champions League, c'était une saison pourrie. Je pense que dans la même situation que nous, il y a 7-8 équipes. Ils sont habitués à être toujours dans les demi-finales, quart de finale. C'est pas notre cas. Nous manque encore une dernière chose pour arriver à le niveau de Barcelone, de Real Madrid, de Bayern Munich, qui sont des équipes qui sont plus d'expérience. Les ambitions, les objectifs sont toujours très élevés. C'est celui-là de chercher de gagner tout ce qu'on a. Mais on sait aussi qu'il y a aussi des autres équipes qui ont nos mêmes ambitions.
Alors messieurs, Marco Verratti, il n'a pas les pieds sur le frein, mais il n'a pas le pied à fond sur l'accélérateur non plus. On a l'impression qu'il temporise un petit peu. Pierre, est-ce que tu as la sensation qu'il est en train de de préparer peut-être le public parisien à comprendre que la Ligue des Champions, ça ne s'est pas gagné jusqu'à présent et que ça se fera peut-être pas immédiatement, à l'image, par exemple, on comparait souvent de Manchester City qui met beaucoup de temps depuis le début de son projet financier autour du club pour arriver à ses fins. Est-ce que c'est un peu ça le discours
de... Non, mais je crois que l'attente, elle a été réelle parce que le club l'a annoncé. C'est le club qui a annoncé ça un peu trop vite. Moi, je pense effectivement, ça met du temps à se préparer d'atteindre le niveau pour gagner la Ligue des Champions. Et quand il parle de que les gens ou les médias ou les supporters ont été un peu trop durs avec eux en disant qu'une saison était pourrie s'ils perdaient ou s'ils étaient éliminés en Ligue des Champions, c'est pas exactement ça. C'est souvent la manière dont ils ont été éliminés qui a posé problème finalement. Les années où ils ont été éliminés contre plus fort, par exemple comme le Real Madrid ou au retour au Parc, ils se font un peu marcher dessus. Ça a pas fait tant de vagues que ça. Par contre, le Barça, par contre Manchester, effectivement, là, il y a une résonance, une retentie, une oh, j'allais m'embarquer dans un mot que je maîtrise.
Retentissement,
peut-être. Ouais, voilà. Merci Timothée, qui est beaucoup, qui est supérieur et qui malheureusement fait mal, mais parce qu'avant ça, la défaite, elle est quasi inadmissible, elle est quasiment interdite et impossible. Donc il y a du vrai dans ce qu'il dit. Effectivement, c'est dur de gagner avec des champions. Tout le monde le sait. Effectivement, chaque année, il y a 7-8 équipes qui restent sur le carreau, comme le PSG. D'autres qui ont même des équipes autrement bâties pour gagner la Ligue des Champions avant le PSG qui restent sur le carreau. Mais il y en a pas beaucoup qui sont éliminés de la manière dont a été éliminé le PSG. Dans les récentes années, deux, trois fois, quoi.
Ludo, se mettre dans cette position d'outsider, c'est un grand classique dans le football. Est-ce que c'est s'offrir un petit peu de marge? Est-ce que c'est s'enlever un peu de pression?
C'est sûrement s'enlever un petit peu de pression, mais tu peux pas balayer ça d'un revers de la main, dans le sens où, qui disent qu'il y a 7-8 clubs qui sont potentiellement capables de gagner la Ligue des Champions, être dans le dernier carré. Voilà, on le comprend tout à fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, faut voir quelle est la concurrence dans les autres championnats, comment ça fonctionne. Ces équipes-là qui sont amenées à jouer le dernier carré, elles sont challengées dans leur championnat respectif. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il n'est pas challengé dans son championnat. Il a 20 points d'avance à 10 journées de la fin. Donc, forcément que les gens se projettent les ambitions du Paris Saint-Germain pratiquement que sur la Ligue des Champions. Et tant que ça sera comme ça dans le championnat, tant que Lyon, Marseille viendront pas essayer de titiller cette équipe, et ben forcément les supporters du Paris Saint-Germain se projetteront principalement sur la Ligue des Champions, et tu peux pas faire autrement pour le moment. Donc bien sûr, c'est s'enlever un petit peu de pression, parce que au final t'as pas remporté alors que t'as une équipe taillé pour les coupes nationales, ce qui fait un peu tâche, mais t'es jugé sur t'as beau remporter à chaque année, tu sais, avec Laurent Blanc, quand il remporte les trois titres, bah tu peux pas t'empêcher de juger le Paris Saint-Germain sur son parcours à chaque fois en Ligue des Champions, et ça sera comme ça pendant un moment, à mon avis.
Le PSG se fait pas éliminer contre Manchester l'année dernière, il se fait par exemple éliminer le tour d'après. Je pense qu'on en parle, on en parle 10 fois moins, et on n'a pas du tout le même jugement ou la même analyse. Là, pour moi, c'est la manière dont le PSG a été éliminé.
Est-ce que le PSG qui est terrible, c'est que je suis pas forcément d'accord avec toi. J'ai l'impression que le PSG n'a d'autres possibilités, d'autres saluts que d'arriver en finale, à minima. Peut-être pas la gagner,
non,
mais on a l'impression que de toute façon, en dessous, ce sera un échec.
Non, moi, je pense pas. Je pense que, par exemple, si cette saison, avec le retour de Leonardo, avec un groupe construit un peu plus intelligemment, ou avec un peu plus de logique, un recrutement à certains postes où il manquait du monde, le PSG arrive, je te dis une bêtise, mais en quart de finale, contre le Barça, contre la Juve, se fait éliminer en perdant 1-0 à l'aller ou 2-1 au retour. Je pense que, très sincèrement, les gens dans leur ensemble auront une autre analyse du parcours du PSG et pourront dire le PSG a cette année peut-être progressé dans certains secteurs de jeu. Là, le problème, c'est que depuis 5-6 ans, on n'a pas l'impression, et d'ailleurs c'est une réalité, que ce PSG-là progresse. Il n'y a pas d'évolution, que ce soit parfois individuellement pour certains joueurs, dont Marco Verratti fait partie, voilà, un Thiago Silva, un Angel Di Maria, on les voit derrière toi, pour citer qu'eux, mais Je pense que les gens sont en attente de ça, de voir une évolution marquée, pas forcément d'aller au bout et de gagner la Ligue des Champions. Les gens sont pas idiots, ils savent que c'est très très compliqué, que tu peux tomber à un moment donné sur plus costaud que toi. Tous les ans, il y aura sûrement plus costaud que toi. Il faudra un peu de réussite, Mais les gens ont envie de noter une progression dans ce groupe.
Mohamed est supporter du Paris Saint-Germain. Mohamed, merci de nous avoir appelé au 32-16. Vous pouvez évidemment tous le faire pour venir participer avec nous, échanger sur le PSG. Mohamed, pour toi, ces propos sont ceux d'un joueur en manque d'ambition ?
Déjà, bonjour à tous.
Bonsoir, Mohamed.
Et je confirme, bonsoir, désolé. Et je confirme, mais malheureusement, Pierre m'a devancé. Alors, Marco Verratti, si on lit un peu entre les lignes, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il fait la phrase basique d'un joueur de foot en disant bah écoutez les gars, il y a un seul champion, il y en a un seul, et à la fin, il y en a 12 ou 13 ou 14 équipes qui sont déçues. Sauf que mon ami, mon cher Marco, alors que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais ça retranscrit un peu son manque d'ambition et son pourquoi est-ce qu'il n'évolue pas depuis des années. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire les gars, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est compliqué, il n'y en a qu'une seule qui gagne. Mais on ne te demande pas de gagner la Ligue des Champions, mon cher ami. On te demande de faire bonne figure. Et s'il avait fait bonne figure lors de l'interview, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Il aurait dit, voilà, face à Manchester, c'est une faute professionnelle. Face à Barcelone, c'est une faute professionnelle. Nous, les supporters du PSG, on ne demande pas de gagner la Ligue des Champions dès la saison prochaine, ou dans deux saisons. On veut voir du beau jeu à l'image de l'Ajax. Est-ce que vous pensez que les joueurs de l'Ajax, même s'ils étaient éliminés, qu'ils s'étaient fait éliminer en quart de finale face à la Juventus, ils se seraient fait insulter par les supporters ? Non ! Et pareil pour le PSG. Si le PSG avait bien joué contre Manchester, bon, Manchester c'est un mauvais exemple, mais avait bien joué contre le Real Madrid aller-retour dans un match aller-retour de folie, et on se fait éliminer en quart, personne va sortir, aller les voir à l'entraînement et aller les insulter. Il se trompe totalement de sujet et ce n'est pas du tout le débat de gagner la Ligue des Champions.
Mohamed, pour toi, si tu veux voir le Paris Saint-Germain progresser, c'est gagner le championnat, gagner les coupes nationales et aller jusqu'où en Ligue des Champions ? C'est quoi ton minimum ?
Mais je crois qu'il y a même pas de Mohamed, mais je crois qu'il y a même pas de challenge. C'est ce qui t'explique Mohamed, c'est qu'à un moment donné, ils ont juste envie de retrouver une équipe qui est en adéquation avec ses qualités. Ce Paris Saint-Germain là, il est capable d'aller dans le dernier carré quand tu vois la qualité de l'effectif. Simplement, ils se donnent jamais vraiment les moyens d'y arriver parce que tel joueur pense à lui, parce que tel joueur est en méforme, parce que tel joueur ne respecte pas l'hygiène de vie d'un footballeur professionnel quand il joue à ce niveau et qu'il joue tous les trois jours. Les supporters, ils ont juste envie de retrouver ça. Des mecs qui, à un moment donné, se préparent et qui sont
et qui se mettent, que la
qualité que l'on voit de cet effectif là soit retranscrit sur le terrain au bon moment, au bon endroit. C'est aussi simple que ça. Et si tu te fais éliminer contre Barcelone parce que Barcelone est plus fort, et ben c'est tout, tu te fais éliminer
mais même pas avec panache,
c'est juste que les mecs se donnent les moyens de pouvoir essayer de passer ces tours là sauf qu'ils sont jamais en forme au bon moment, ils vont à droite, ils vont à gauche. Marco Verratti peut être aussi visé, hein, mais après on va continuer cette interview, il y a des choses intéressantes dans son interview, mais les supporters, ils ne demandent pas la lune, ils ne demandent pas de remporter la Ligue des Champions, ils demandent juste qu'à un moment donné, ces mecs-là se mettent dans les conditions de pouvoir respecter les supporters et le club et de mettre le terrain ce qui est attendu au début de saison.
Les supporters comme Mohamed aujourd'hui, ils sont pas, ils sont pas idiots et deux, ils ont énormément d'infos. On n'est plus 20 ans en arrière où on a que le match, le mercredi ou le samedi. On a toutes les infos qui vont avec. On a toute la perspective d'entraînement, etc. Comment ça se passe avant les matchs, après les matchs, etc. Et une fois de plus, et c'est très symbolique ce que dit Mohamed, c'est ce que je disais avant. Oui. Les supporters, ça les dérangeront pas. Alors oui, t'auras la déception le soir du match quand t'es éliminé en quart de finale de Ligue des Champions. Oui, t'es triste et oui, t'es déçu. Mais ce sera fini et pour connaître un peu le public du Parc des Princes, ce sera même fini très rapidement au Parc des Princes pour le match d'après. Si c'est une élimination, parce que t'es tombé sur plus fort, parce que t'as pas eu de réussite, par exemple, ça peut arriver aussi un jour, mais pas une élimination parce que tu passes au travers, et malheureusement, ça s'est répété
quand tu sais que les mecs sont sortis trois jours avant.
Oui, par exemple.
Et que les mecs, ils ont pris le match par-dessus la jambe, malgré l'expérience qu'ils ont dans cette compétition, malgré ce qu'ils savent, ce qui peut arriver.
Mohamed, le mot
forcément, oui. Tu étais fâché.
Désolé, rapidement, je vais être synthétique. Juste trois points rapides. Premier point, c'est aujourd'hui, reprenez un peu sur les cinq dernières années, combien de fois on a eu l'équipe type, sur combien de fois on a eu l'équipe type, que ce soit en huitième ou en quart de finale avec les champions. Messi se blesse, Ronaldesque se blesse en huitième ou en quart de finale avec les champions.
Jamais,
ils sont toujours présents. Alors, deuxième point, je change un peu de sujet, mais tant que la colonne vertébrale du Paris Saint-Germain ne sera pas aussi forte que les grosses équipes, c'est-à-dire Areola, on n'ira jamais loin. Le milieu de terrain défensif, on n'ira jamais loin. C'est pas Ganagay qui va vous faire gagner la Ligue des Champions. Même si, voilà, comme je vous ai dit, le plus important, c'est d'aller loin. Et troisièmement, il ne faut pas aller chercher très très loin. Vous prenez l'exemple de Liverpool depuis 2015. Liverpool a mis en place leur trio d'attaque. On prend Salah, on prend Mané, on prend Firmino. On avance un petit peu. 2017, 2018, on arrive en finale avec des champions. Qu'est-ce qui nous a posé problème? C'est le gardien et c'est le défenseur. Le défenseur, Virgil van Dijk, est arrivé en janvier. Hop, 80 millions. À l'intersaison, Alisson Becker, à la place de Lord Karius, 80 millions. Et tout de suite, ça va mieux. C'est à un moment donné, il faut arrêter. On a 7 ans de l'ère Qatari. On a encore Areola. On a encore Kerrer. On a encore des postes où, effectivement, on a des
manques, des carences.
On a des carences. C'est pas possible. On a dépensé pratiquement 1 milliard d'euros.
Ouais. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir été avec nous. Merci pour ces 3 points.
Merci Mohamed.
Je ne dis jamais assez, mais l'important, c'est justement les 3 points. Donc, merci Mohamed d'avoir été avec nous. On va continuer à dérouler cette interview de Marco Verratti. Marco Verratti qui a parlé aussi de la philosophie de jeu de Thomas Tuchel.
Moi, j'adore la façon que le coach, il va jouer, il va avoir toujours la possession, il va toujours avoir le contrôle du match. Et on est toujours tombé d'accord dans les premiers jours qu'on a parlé. C'est un entraîneur qui, tactiquement, il est vraiment bien. Il te fait apprendre beaucoup aussi, il te donne des choses que, un jour, si on se va quitter, je peux dire que le coach, il m'a donné, il m'a apporté beaucoup de choses. Les ambitions, les objectifs sont toujours très élevés, c'est celui-là de chercher de gagner tout ce qu'on a, mais on sait aussi qu'il y a aussi des autres équipes qui ont nos mêmes ambitions.
Voilà, Marco Verratti, plutôt enthousiaste quant au jeu de Thomas Tuchel. C'est peut-être l'occasion d'en parler, de faire un petit bilan après plus d'un an.
Je te rassure, je pense qu'il était très enthousiaste sur le jeu de Laurent Blanc, sur le jeu de Unai Emery.
Langue de bois.
Mais non, mais tu peux être qu'enthousiasme quand tu te racontes que l'entraîneur, il veut tout le temps avoir la position de balle.
Ouais,
Marco Verratti, il est dans un confort. Quand il a la position de balle, il n'a pas à courir, il n'a pas à défendre, il n'a pas à aller récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire.
Non, et puis c'est un joueur très très talentueux qui techniquement, effectivement, est au-dessus de la moyenne. Et au PSG, tu as la possession de balle. Voilà, alors. Et encore que avec Tuchel, tu l'as peut-être un petit peu moins, c'est un petit peu différent de ce que faisait peut-être Laurent Blanc ou Unai Emery, mais... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que de toute manière la question à se poser pour le PSG c'est le style de jeu ou quelque chose comme ça.
Alors, puisque vous me dites que Marco Verratti fait de la langue de bois, qu'il est consensuel, votre avis, est-ce que depuis un an vous sentez un jeu à la Thomas Tuchel? Est-ce que vous avez l'impression que le jeu du Paris Saint-Germain a progressé par rapport à l'ère Unai Emery?
Il y a une évolution, enfin bon, si je peux me permettre le don premier, mais il y a une évolution pour moi, c'est que tactiquement les joueurs sont peut-être capables de faire différentes choses dans un même match. On les a mis face à des responsabilités sur le plan tactique, on leur a appris à faire des choses différentes. Après, une fois de plus, j'insiste, je suis désolé, lourdement, mais pour moi, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain, et ce n'est pas ce qui manque depuis 4-5 ans au Paris Saint-Germain. Tactiquement, on a des joueurs qui effectivement savent jouer à 3 défenseurs derrière, peuvent jouer à 4 défenseurs derrière, c'est pas le souci aujourd'hui au PSG. Au PSG, le souci, c'est de créer quelque chose où on va se mettre minable tout au long d'une saison, et surtout le moment où il va falloir se mettre minable. Et c'est ça qui manque, voilà. Et pour ça, il manquait certains joueurs clés. Il va encore en manquer cette année, je pense, parce que on peut pas tout rattraper en un mercato, c'est pas possible. Mais pour moi, c'est ça le travail de Leonardo aujourd'hui, il est là-dessus, c'est recréer un état d'esprit d'équipe, de combattant, de guerrier, et après le talent des joueurs, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de talent dans cette équipe, fera la différence.
Ludo, le jeu du PSG t'as séduit? Est-ce que t'as senti vraiment un changement de cap?
J'ai pas senti vraiment un changement de cap, mais j'ai vu la patte vraiment de Thomas Tuchel lors du premier match contre Manchester United à l'aller, où il a créé une situation de un espèce de 3-4-3 où il a su s'adapter avec Marquinhos qui pouvait avoir un rôle hybride. Si tu subis,
ça a été même fait avant contre Liverpool.
Ouais, mais ça a été
en
vraiment
poule.
très marqué à ce moment-là, où Marquinhos avait cette capacité à pouvoir revenir et se mettre dans la ligne 2-3 si ça chauffait, parce que tes latéraux forcément c'était Alves d'un côté, Bernat de l'autre, si je me souviens moyens bien.
Et, oui. En fait, il revenait avec les trois derrière.
Il revenait moins.
Quand tu avais le ballon, il revenait.
Du coup, tu resolidifiais ta défense à trois et tu avais toujours un qui restait un peu plus haut. Et donc, non, c'était parfaitement huilé. Ils ont éteint Manchester United à Manchester United. J'ai vraiment vu la patte Thomas Tuchel à ce moment-là. Après, la patte, elle n'est pas forcément que tactique, elle est aussi dans le management. Tout le début de saison.
Ouais, mais là, est-ce qu'on a vu quelque chose de nouveau, on pensait tous, mais au moment où on a eu les mêmes problèmes.
Non, mais j'ai vu des joueurs qui ont adhéré au projet, j'ai vu sa communication qui était plutôt bonne, avec des joueurs qui étaient tout le temps souriants, et le début de saison a contribué à nous emballer, on était séduits. Et après, quand les choses se sont compliquées, forcément. Moi, ce qui me chagrine parfois, c'est que ce groupe-là, t'as l'impression que ce groupe est coupé en deux parfois, entre la partie offensive, la partie défensive. Certains joueurs jouent avec d'autres, ils ont des affinités. Tu vois, Marco Verratti, qui jouait souvent Neymar, Mbappé, Mbappé et Neymar, qui jouaient tout le temps ensemble. À qui t'as en oublié Cavani parfois. Donc, du coup, t'avais un vrai déséquilibre, parce que Mbappé et Neymar venaient plutôt côté gauche, en laissant Cavani esselé dans l'axe. Tu vois, c'est tous ces déséquilibres-là qui, aujourd'hui, à mon avis, avec l'apport de Leonardo, plus Thomas Tuchel, va pouvoir, voilà, le fait que t'aies établi déjà une hiérarchie.
Mais on est d'accord que Leonardo va pas agir sur le plan tactique, mais qui va agir sur le plan de la mentalité de cette équipe, qui va permettre à Thomas Tuchel d'être encore plus performant avec ses joueurs.
Quand il reprend Neymar de volée, forcément Neymar, il n'est plus au-dessus forcément de la mêlée.
On est d'accord. C'est pour ça que pour moi.
Donc lui, il se remet dans le sens du collectif, et il sait, enfin, s'il est amené à rester, il sait qu'il faudra qu'il fasse une année où il va falloir qu'il se monte, mais aussi il va falloir qu'il joue avec les uns et avec les autres.
Pour répondre à ta question, si on a le temps, tu me dis.
Oui, je t'en prie.
Pour répondre à ta question en une minute, est-ce qu'on a vu la patte Tuchel? Oui, mec passionnant, on l'a reçu dans Breaking Sport avec Momo Bouafsi. Tu le sens, c'était avant la première journée de championnat, tu sens tout de suite que le mec il est passionné, que tactiquement tu peux apprendre des millions de choses avec lui. Donc oui, tactiquement tu sens qu'il y a une patte Tuchel. Sauf que aujourd'hui au coach du PSG, on demande quoi? Qu'est-ce qui se passe depuis 5-6 ans? On demande de créer un groupe qui est capable d'aller défoncer des équipes au moment où il faut les défoncer, d'être plus fort que l'adversaire, sur d'autres plans que tactique.
À 110%.
Tactiquement, je pense qu'Unai Emery avait aussi sa manière de voir le foot et que ça pouvait aussi marcher comme ça. Sauf que il n'y a pas eu la mentalité dans cette équipe. Il n'a pas su donner ça.
Mais la mentalité, elle est retranscrite par le match catastrophique et
donc pour moi la patte Tuchel
retour
tactique c'est bien, mais sur le reste on l'a pas encore.
Ça paraît un détail, mais pour moi la non mise au vert de l'équipe un match de cette importance,
par exemple,
donne un message aux joueurs de match un peu c'est dilettante, tu vois, on arrive au stade tranquille, chacun fait son truc, t'es pas dans l'ambiance Ligue des Champions, il faut absolument, on a appris nos erreurs, on va terminer le boulot très rapidement dans les premières minutes pour que Manchester ne puisse pas espérer. Il se passe l'inverse, c'est-à-dire que les mecs ils viennent, ils sont dans un fauteuil, ils pensent tranquillement que le match va se dérouler, en plus il y a des jeunes, il y a pas tous les titulaires et que tout va se passer comme prévu. Et puis au final, bah ça se passe à l'envers, et c'est là où il a un peu péché dans son management. C'est-à-dire qu'il a pas su mobiliser les mecs pour les échéances les plus importantes.
Bien sûr, on va en parler avec Karim qui attend depuis plusieurs minutes. Merci Karim de nous avoir rejoint. Bonjour à toi.
Bonsoir Karim.
Bonjour.
Salut Karim. Bonsoir Karim. Juste avant de parler avec toi du Paris Saint-Germain, priorité au direct avec le FC Lorient qui joue face au Paris FC. 3-0 pour Lorient qui déroule pour cette première journée de Ligue 2. Les buteurs Cabot, Saunier et Vissa à l'instant pour Lorient. Donc à domicile face au Paris FC. Bonne entame de championnat pour les hommes de Christophe Pélissier qui est quand même allé se mettre en danger, Christophe Pélissier, en acceptant ce challenge en Ligue 2. Alors Karim, pour toi, le Paris Saint-Germain, presque à tous ses échelons, manque d'ambition.
C'est clair. Bon, bonsoir. Oui, pour moi, le PSG manque d'ambition parce que même au sein, ça va du supporter jusqu'à l'intendant. Parce que quand je les entends parler, que ce soit les supporters ou les dirigeants, faut pas mettre la pression aux joueurs et leur dire qu'on vient pour gagner avec des champions. Faut pas leur mettre la pression avant le match. Je veux dire, quand on dépense plus d'un milliard de transferts, on peut pas se cacher. On vient au début d'une compétition, on dit cette année, on vient gagner la Ligue des Champions. Et cet état d'esprit où on se cache derrière son petit doigt, ben, ça a des conséquences sur l'état d'esprit des joueurs. Parce que quand je vois des joueurs qui viennent au PSG, ils se transforment et ils se liquéfient. Buffon, on l'avait appelé parce qu'il avait du caractère et une certaine expérience. Il s'est liquéfié. Neymar qui a pris les choses en main lorsque le PSG a fait le lorsque le Barça a fait le 6-1. Il se liquéfie. Il y a un problème dans ce club, c'est que on n'assume pas ses ambitions. Quand il y a le Bayern, le Real ou autre, je veux dire, ils se cachent pas derrière leurs petits doigts. On vient pour gagner. Le PSG, c'est faut pas qu'on leur mette la pression. Il faut qu'on ait du caractère. Non. Et ça, ce manque d'ambition, ça dégouline sur tout le reste du club. Je veux dire, les grandes équipes en France, que ce soit l'OM de Tapie ou le PSG de Deniso, ils se cachaient pas. Ils disaient, nous, on vient pour gagner la Coupe d'Europe. Et ben, cette équipe-là, c'est ça. On dirait que quand tu signes au PSG, tu te liquéfies. Et moi, je trouve ça aberrant quand j'entends un supporter qui dit, mais on veut même pas qu'il la gagne, on veut qu'il fasse du beau jeu. Ben non, on veut pas qu'il fasse du beau jeu. Enfin, moi, non, je suis pour l'OM. J'espère, je suis pas pour eux. Mais, j'attends que, enfin, pas moi, mais le public, je sais pas, faut qu'il soit exigeant. Et on a fait preuve de beaucoup de mansuétude avec ce club.
Karim, j'aurais pas l'exigence sur le résultat, en fait. C'est ce que je voulais dire. C'est exigeant avec le Paris Saint-Germain, oui, mais pas forcément sur le résultat, parce qu'il y a d'autres équipes qui sont capables de la gagner, cette Ligue des Champions, mais exigeant sur la manière qu'ils mettent. Alors, pas la manière de jouer, la mentalité, l'état d'esprit qu'ils mettent dans les matchs. C'est ça que moi, je leur reproche.
Merci beaucoup, Karim, d'avoir été avec nous. L'after revient dans quelques instants et jusqu'à minuit. Vous le savez, on va continuer à parler de cette interview de Marco Verratti. On vous parlera de Patrice Evra qui a officiellement pris sa retraite. On pensait que c'était déjà fait, mais en fait, c'était pas le cas. Donc, il a officiellement annoncé aujourd'hui. On revient dans un instant pour l'after avec Pierre Ducrot, avec Ludovic Obraniak.
RMC, l'afterfoot, Timothée Mémon.
22h31, c'est l'after avec Pierre Ducrot, avec Ludovic Obraniak. On continue de parler du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Lorient mène toujours 3-0 sur la pelouse du PFC et au milieu de terrain.
Oh non, sur leur pelouse. Sur leur pelouse à Lorient.
Sur leur pelouse, effectivement. C'est à Lorient, tant pour moi. Et au milieu de terrain, Fabien Lemoine ressemble de plus en plus à Fabrizio Ravanelli.
Pour ma grande joie.
Et on l'embrasse. Et de moins en moins, Man Pokora. Je sais pas pourquoi. Geoffrey me siffle ça dans l'oreille. On continue de parler de Marco Verratti.
Geoffrey quand même. Geoffrey peut glisser quelques saucisses exprès pour ta.
Oui, effectivement. Des crocs en jambes. C'est un spécialiste du tac de glisser. Je sais pas non plus pourquoi. On lui demandera. On va continuer à dérouler cette interview de Marco Verratti accordée en exclusivité à RMC Sport et à Loïc Tanzi qui se trouve actuellement à Shenzhen avec le Paris Saint-Germain. Marco Verratti qui est revenu sur un sujet sensible, quasiment tabou il y a 10 ans dans le football, le fait de retenir un joueur quand il ne veut pas rester. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Écoutez l'avis du milieu de terrain italien.
C'était pas une obligation pour un Germain de me faire rester parce que je pense que si un joueur à la fin il veut partir, en façon pour partir, il le trouvera toujours. Et je pense que c'est aussi mieux comme ça parce que sinon, on va avoir un joueur qui n'a pas envie, qui est contre un peu tous les clubs. Je pense que quand un joueur veut partir, c'est bien pour le club de le laisser partir. Après, bien sûr, les conditions que le club dit, qu'il veut le club, mais je pense qu'il ne faut pas tenir des joueurs qui ne vont pas rester.
Marco Verratti, quasiment oui. Pour une position de semi-toute puissance du footballeur, finalement, de l'employé sur l'employeur. On va y revenir dans un instant. On va juste écouter un autre extrait de cette interview qui finalement rejoint le premier. Vous allez le comprendre, puisque Marco Verratti nous parle du Brésilien Neymar.
Il se voit dans les petites choses. Il se voit aussi avec les gens qui sont venus à Paris, des gens qui aussi Neymar, tout le monde pense qu'il est venu aussi pour l'argent, mais Neymar, l'argent, il prenait à City, il le prenait à Chelsea, il le prenait à Manchester, il le prenait dans pas mal de clubs. Il est venu ici pour un projet, il est venu ici pour, parce qu'il veut que Paris Saint-Germain devienne encore plus grand. Je pense que, pour moi, je pense aussi pour les autres, gagner à Paris sera différent de gagner à Barcelone ou à Madrid, qu'ils ont gagné déjà 5, 6, 7 fois. C'est pour ça qu'on donne tout, mais après, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut, il faut voir vraiment, il faut donner tout. Après, s'il y a des choses, des équipes, des joueurs qui sont mieux que nous, on peut pas faire grand chose.
Pierre, un mot sur la première partie de cette interview qu'on a entendue, Marco Verratti qui dit un club ne doit pas empêcher un joueur qui souhaite partir de partir. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'un employeur doit céder aux desiderata de son salarié?
Bah de façon très générale, comme il en parlait là dans la première interview, oui, dans la meilleure des situations, un joueur a envie de partir, le club a en face ce qu'il demande au niveau des conditions, on le laisse partir, comme ça tout le monde est content. Oui, sauf que c'est Chaque cas est différent. T'as parfois des vraies raisons de vouloir partir. T'as parfois des promesses qui ont été faites par des clubs l'année ou deux ans avant de laisser partir un joueur pour son évolution, pour aller au-dessus. Et puis parfois t'as d'autres cas où à un moment donné, non, c'est plutôt le club qui a raison et c'est plutôt le club qui doit garder son joueur et le joueur qui doit rentrer dans le rang. Voilà, il y a un peu toutes les situations et c'est compliqué de donner une règle pour ce genre de cas. Chaque cas est particulier. Ce qui est sûr, et là pour moi c'est vraiment une quasi-certitude, c'est qu'il faut qu'en général ça puisse se passer dans le dialogue entre le club et le joueur. Quand on arrive dans une situation comme ça arrive parfois de faire la grève, de pas aller s'entraîner, de rompre la discussion avec son club et son employeur actuel, c'est jamais très bon. C'est jamais très bon pour résoudre le cas qui se présente, et c'est jamais très bon en termes d'image pour le joueur quand même. Voilà.
Ludo, t'as vécu ce genre de situation dans ta carrière, t'as voulu partir, t'as vu des coéquipiers qui voulaient
à tout prix, tous les ans il a fait ça, Ludo. Tous les ans,
qui voulaient à tout prix s'en aller et qui finalement, d'une certaine manière, c'est aussi comme ça que les supporters le ressentent, ont pris le club un peu en otage.
Par contre, du principe que Verratti connaît très bien la situation puisque Neymar c'est son pote. Donc, il va pas dire le contraire. Sachant que lui est, l'exemple inverse. Puisque lui a voulu partir à un moment donné, il s'était mis d'accord avec le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain a dit niette.
Ça c'est encore à prouver si c'était pas pour renégocier mon Ludo et s'il y avait réellement quelque chose.
Mais
de
en tout cas, il a l'air pas malheureux aujourd'hui. Et il y a un truc qui me paraît très intéressant et je suis content que ça sorte de la bouche de Marco Verratti, c'est qu'aller gagner là où ça a déjà gagné. Le challenge, il est quand même moins excitant que de gagner là où ça a pas gagné encore. Et c'est là où tu vois le caractère et les vraies ambitions d'un joueur qui s'est déclaré quand même, qui vient pour être le meilleur joueur du monde et pour faire gagner un titre à un club qui a le titre suprême à un club qui l'a pas encore gagné. Là, t'es un mec qui a de l'ambition. Là, t'es un mec qui fait rêver. Repartir de nouveau pour un club qui a déjà gagné au service d'un mec duquel tu as déjà été. Honnêtement, sur le challenge, en tant que joueur, je vois pas où il peut aller prendre c'est la solution de facilité pour lui.
Je
vois pas l'excitation de se dire j'ai déjà gagné là où les autres ont déjà gagné.
Je vais te la dire, c'est de regagner la Ligue des Champions une fois, deux fois, d'être champion de son pays.
Il a déjà gagné avec Barcelone.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut la regagner. Donc
le kiff ultime, c'est de gagner là où ça a pas été fait. Tu marques l'histoire d'un club, c'est la première fois.
Je pense que c'est un garçon.
Ça n'engage que moi.
D'accord, c'est un venu au Paris Saint-Germain, pas seulement parce qu'il y avait des conditions salariales excellentes.
Lui, quand même, lui vient au départ du
plus grand nombre. C'est pour ce statut de pionnier.
Il sait que s'il est à Barcelone, il peut pas gagner le Ballon d'Or. Tant que Messi, il est le lieutenant de Messi,
il peut pas gagner le Ballon d'Or. Donc là, tu reviens dans des considérations individuelles.
En faisant d'une pierre deux coups, du coup, parce que il a ce challenge-là. Mais du coup, au Paris Saint-Germain, le recrutement fait que t'es un candidat à la victoire finale. T'as Mbappé, t'as quand même l'effectif pour aller au bout. Ça serait quand même magique que j'arrive à calquer mon ambition personnelle sur l'ambition collective.
Sauf que si, alors dans le meilleur des mondes, c'est ça. Je vais à Paris parce qu'il y a un vrai projet qui va nous permettre d'aller gagner une Ligue des Champions un jour et avec moi, et je vais en être la figure de proue, et donc forcément la gloire sera un peu pour moi. Et effectivement, je vais pouvoir me diriger vers un Ballon d'Or, vers des considérations plus individuelles derrière. Sauf que tu t'aperçois quand ça marche pas pendant un an, pendant deux ans. Et qu'en plus, il a une part de responsabilité individuelle, puisqu'il loupe, il est blessé lors des matchs principaux. Là, il en revient à des considérations individuelles, où il préfère revenir, à mon avis, dans un club qui a déjà gagné, mais où il va pouvoir regagner et être sur le devant de l'affiche. Ligue des Champions, etc.
Tout le respect, j'ai jamais eu le talent d'un joueur comme ça. Ouais, je ne l'aurais jamais eu. J'ai un profond respect pour les joueurs comme ça. Mais t'es un petit. T'es un petit. Parce que tu te dis, en plus, c'est-à-dire que là où t'aurais pu faire la différence, t'as pas été là. Donc déjà, il y a des raisons pour lesquelles t'as pas été là.
C'est ce que je te dis.
Qui peuvent être associées à ton train de vie. Donc ça veut dire que t'as pas respecté déjà le contrat que t'avais avec le club. Et en plus,
je suis d'accord avec toi.
Et en plus de ça, il y a un jeune qui est arrivé et qui a pris la place que tu devais avoir.
Mais s'il réagissait de la manière dont tu parles juste avant, il y aurait pas eu les problèmes qu'il y a eu cet été à ce moment-là. Il serait resté à Paris en disant, le discours, il est très simple. j'ai merdé, j'ai été blessé deux fois. Enfin, j'ai merdé ou pas d'ailleurs, il aurait pu dire j'ai eu la malchance d'être blessé deux fois au mauvais moment. Alors, j'ai pas porté cette équipe là où je dois la porter et on m'a pris
Pierre,
pour ça. Donc cette année, je vais rester là, je suis là.
C'est un grand joueur, mais c'est un petit homme.
Bah, je sais pas, mais si en tout cas lui, son intention est de partir, apparemment, c'est ce qu'on sous-entend quand même dans les.
Moi, je le vois comme
dans
ça.
Les mots de Marco Verratti.
C'est un grand joueur, mais sur le plan de la morale, sur le plan de... t'es petit. Franchement, tu la joues petit,
tu joues petit de la formule de Ludovic Obraniak.
Ouais, je sais pas où, en tout cas, il veut aller là où il a le plus de chances de gagner.
En sécurité ou
là où il a plus de chances de gagner.
Mais là où t'es le numéro 2 à jamais. Voilà.
Ouais, peut-être aussi.
Voilà, c'était l'interview de Marco Verratti. Évidemment qu'on va continuer à dérouler au fil des heures sur RMC. Une interview obtenue par Loïc Tanzi. Bravo à lui, on le salue.
Il va bien, Loïc.
Il nous écoute du fin fond de Shenzhen. Ouais, il va bien. Il va bien. Il s'adapte doucement, mais sûrement au climat local. C'est 5 à 6 chemises par jour.
T'inquiète pas, le Loïc est caméléon, t'inquiète pas.
Un minimum. Une information, c'est terminé entre Lorient et le Paris FC. Victoire à domicile de Lorient 3-0. Les buteurs Cabot, Saunier, Vissa et Lorient se retrouvent donc co-leader du championnat de Ligue 2, co-leader avec Clermont, ça tombe bien. Dans un instant, la touche arme de cet after, c'est Saber Desfarges qui va nous rejoindre pour nous parler du mercato. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Timothée Mémon.
22h43, c'est l'after, c'est jusqu'à minuit dans quelques instants. On va parler de Patrice Evra qui a pris officiellement sa retraite. On va vous parler également des dates du mercato à géométrie variable. Il y en a un petit peu assez, on n'y comprend rien. Et puisqu'on va parler de mercato, c'est le mercato show.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marchander.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Il est radieux parce qu'il est co-leader du championnat de Ligue 2 avec le Clermont Foot. Saber Desfarges nous a rejoint.
Salut Tib, salut tout le monde.
Salut Saber. C'est surtout qu'il rentre de Washington qu'il est radieux comme ça.
C'est vrai que ça fait un petit choc de culture avec Clermont.
Mais non, c'est aussi beau, c'est aussi riche culturellement. La patinoire, c'est vrai, effectivement, c'est pas le meilleur exemple à donner, mais la place de Jaune est magnifique. Magnifique. Je vous invite à aller à Clermont cet été.
Voilà, c'était le tourisme du 63. On viendra. Pépé à un pas d'Arsenal, c'est l'épilogue d'un long feuilleton.
Tu veux pas commencer par le Paris Saint-Germain, non ? Ça t'intéresse
Alors,
pas ?
Alors, on peut commencer par le Paris Saint-Germain.
Sûr.
On en a parlé longuement du Paris Saint-Germain.
Juste effectivement. Une chose. Idrissa Ganagay, qui a passé sa visite médicale aujourd'hui, il va s'engager officiellement avec le Paris Saint-Germain. Ce sera demain. Contrat de 4 ans plus une année en option, avec évidemment un transfert aux alentours de 30 millions d'euros pour l'ancien. Maintenant, on peut l'appeler comme ça, d'Everton.
Très bien. Rebelote. Pépé à un pas d'Arsenal, l'épilogue d'un long feuilleton.
Oui, le départ de Nicolas Pépé est imminent. Selon nos informations, Lille s'est mis d'accord financièrement avec 3 clubs. Mais seulement 2 ont retenu l'attention du joueur et de son entourage, à savoir Arsenal et Naples. Ces dernières heures, d'ailleurs, les proches de l'attaquant continuent de discuter avec les deux clubs. L'international ivoirien va faire connaître son choix aujourd'hui, ce soir, ou au plus tard, demain matin, auprès des dirigeants lillois.
On connaît le troisième club ?
Je pense que c'est Manchester United, mais je ne suis pas sûr.
On a pas de certitude.
Voilà, je suis pas certain par rapport à ça.
D'accord.
Il est quasiment acté, ce choix-là. Nicolas Pépé devrait bien choisir Arsenal contre un chèque de 80 millions d'euros hors bonus. L'attaquant qui devrait donc devenir un joueur des Gunners dans les 48 prochaines heures. Un contrat de 5 ans l'attend à Londres. Saison exceptionnelle, on le rappelle, pour Nicolas Pépé, qui a inscrit 22 buts en 38 apparitions de Ligue 1.
C'est beau. C'est très beau.
Ludovic, ravi. On en avait parlé la semaine dernière. Tu voulais voir Arsenal.
Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit Arsenal ou pas? Bon, voilà, c'est
Arsenal. Non,
je suis très heureux pour lui. Il rentrera dans la longue lignée des attaquants d'Arsenal avec le
français.
Le concept de non, il est pas français lui.
Ah oui, c'est vrai en plus.
Il voit rien. Ouais.
Enfin, il vient de Ligue 1. Hein,
avec le concept de fausse patte, un gaucher qui jouera à droite avec sa vitesse. Je pense qu'avec Lacazette,
Aubameyang, Pépé, ça fait trembler un peu.
Et Ceballos à la passe. Je pense qu'il peut s'éclater dans un championnat qui est fait pour lui. Très bon choix. C'est un garçon qui apparaît être bien entouré. Je pense que Christophe Galtier aussi a peut-être eu son mot à dire, ou du moins l'a bien conseillé. Il est bien entouré. Voilà, c'est un garçon qui a besoin de jouer. Je suis pas sûr que les clubs qu'on a cités au départ, le Bayern, ces clubs-là, et ou même
c'était renseigné la saison précédente.
Il aurait pas joué titulaire ou ou pas assez souvent. C'est un garçon qui a besoin d'enchaîner les matchs pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et Arsenal est très bien pour ça.
Sacré choix, mine de rien, Nicolas Pépé, parce que la saison dernière, il était tout proche de s'engager à Lyon. Finalement, il a refusé l'offre de Jean-Michel Aulas. Il a cru au projet lillois. Pourtant, Lille sortait d'une saison extrêmement difficile. Il a été convaincu et résultat, deuxième place. Et puis une saison exceptionnelle également, 22 buts. Et puis cette qualification en Ligue des Champions qui lui permet de s'engager à Arsenal.
Une qualification qu'il va falloir assumer parce qu'après tous ces départs côté lillois, eh bien Lille va tenter de se renforcer à présent. Maintenant qu'on a engrangé du cash.
Ouais, il y en a pas mal du cash en ce moment à Lille. Le prochain joueur qui devrait s'engager, d'ailleurs, au LOSC, c'est Thiago Diallo, l'espoir portugais de l'AC Milan, défenseur central qui devrait faire le chemin inverse de Rafael Leao, tout proche de signer avec le club lombard contre 35 millions d'euros plus 20% du prix total à la revente. Le LOSC espère se montrer actif sur le marché des transferts jusqu'à la fin août. Lille espère 2 à 3 recrues offensives, parmi elles Victor Osimhen, joueur de Charleroi, international nigérian, présent à la CAN avec les Super Eagles d'ailleurs cet été. Il est en négociation avancée avec les Dogs. Lille va se montrer active, donc je l'ai dit, il en a les moyens, c'est sûr, à travers ses ventes, mais pas que la qualification en Ligue des Champions, la deuxième place bien sûr en Ligue 1, mais il n'y a pas que ça aussi à noter côté nordiste, c'est que le club a refusé des offres conséquentes cet été, 42 millions d'euros pour Mike Maignan, 40 millions d'euros aussi sont parvenus sur la table des dirigeants lillois pour Jonathan Ikoné, 25 pour Zeki Chelik. Bon, ces offres-là ont été refusées.
Soumaré, 40 millions aussi.
Soumaré aussi, mais la donne elle est différente. Soumaré pourrait partir si Lille parvient à se le faire prêter une année supplémentaire. Ah oui, et d'accord. Uniquement dans ce cas de figure.
Non mais t'as raison, ça veut dire qu'il y a encore un très gros actif dans cette équipe pour l'été prochain.
Tu te rends compte? J'ai fait le compte, on parle d'un effectif d'une valeur d'environ 300 millions d'euros.
T'as frôlé la Ligue 2 il y a un an de ça.
Juste un mot, 42 millions pour Mike Maignan, c'est un chiffre qui vous semble
la valeur d'un très bon gardien avec un potentiel encore à progresser aujourd'hui a beaucoup augmenté, donc non ça m'étonne pas, les grands clubs qui cherchent des très bons gardiens ne trouvent plus de gardiens, ils sont déjà tous pris.
C'est la rareté qui crée le
prix. C'est ça.
C'est très difficile de trouver un défenseur central un 6 et un gardien, des attaquants t'en as beaucoup, mais des 6 et des gardiens ou des défenseurs centraux, même les arrières latéraux, va trouver un arrière latéral gauche de haut niveau. C'est très compliqué aujourd'hui. C'est pour ça que Lyon, direct, ils voient Youssouf Koné, bim, ils se positionnent tout de suite dessus, parce qu'ils ont la visibilité au niveau du championnat. Ils voient que c'est un garçon qui a du potentiel, qui vient d'arriver, qui s'impose de suite. Bah, bingo, ils enclenchent, parce que c'est très difficile de trouver à ces postes-là aujourd'hui.
Avec tous ces départs, vous avez confiance dans le staff lillois pour aller chercher des joueurs qui permettent de figurer honnêtement en Ligue des Champions?
Pour l'instant, ils se sont pas trop trompés sur les choix qu'ils ont fait. Donc il va falloir effectivement continuer. J'ai pas peur sur la qualité des choix qu'ils vont faire pour le futur. C'est plus, est-ce que cette équipe va être prête tout de suite justement pour la Ligue des Champions, mais par exemple?
Ils s'en foutent. Ils s'en foutent.
Oui. Alors eux, oui. Alors quand tu dis ils s'en foutent, je pense que c'est pas Christophe Galtier et les joueurs. Non. C'est plus au niveau des dirigeants.
C'est-à-dire que il y a deux écoles, c'est-à-dire que soit tu te dis on s'en va un peu plus en l'air parce que il va falloir faire bonne figure en espérant sortir des poules et prendre 12-15 millions de plus. T'as et aller chercher des joueurs
millions de garantie
qui vont nous coûter beaucoup plus cher, donc voilà, c'est un risque. Ou alors on continue dans le projet, continue ce qu'on fait, passera peut-être pas les poules, on sera peut-être reparachuté en Europa League, mais le projet il reste le même, on continue.
Mais parce que je pense
qu'il n'était pas vraiment prévu.
Personnellement, j'imagine mal Christophe Galtier se dire on va pas chercher la qualification.
Christophe Galtier, tu le vois dire quoi que ce soit sur le projet du LOSC, Christophe Galtier, les postes ont été bien définis. Christophe Galtier, il coach les joueurs, lui il donne des profils, on lui amène des profils et lui il se mêle pas de ce qui se passe.
Ludo, j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux, on n'est pas dans du trading pur et dur, on n'est pas dans un club qui a uniquement un projet sportif d'aller le plus haut possible, on est un peu entre les deux. Sinon, preuve en est, les offres dont tu nous as parlé, Saber, elles auraient trouvé acquéreur et ils auraient lâché s'ils étaient là uniquement pour faire de l'argent.
Mais parce que si tu connais bien Soumaré, tu sais que Soumaré, tu vas le vendre plus que ça quand tu vas le montrer en Ligue des Champions, parce que Soumaré c'est un top joueur, et peut-être que le joueur aussi il aspire avec cette vitrine là à aller autre part qu'à Wolverhampton aussi.
Ouais, possible, mais tu aurais vendu un Mike Maignan plus de 40 millions dès cette année si tu faisais du trading pur et dur. Donc je pense qu'ils sont un peu entre les deux.
Imagine, c'est Brighton qui dit voilà, Mike Maignan, on pose 42, on veut la Brighton. Tu crois que Mike Maignan, avec la saison qu'il fait, il y a la vitrine de la Ligue des Champions, il se dit pas bah, peut-être que je peux peut-être
voir un peu plus. Tu sais quoi, mon Ludo,
vu la rareté des bons gardiens.
Peut-être, mais je pense que si sa valeur est à 40 millions et que c'est parce qu'en face il y a un potentiel, je pense que ça aurait été autre chose que Brighton pour lui. Et honnêtement, même un Brighton aujourd'hui ou un club de première ligue aujourd'hui, je pense qu'un gardien peut avoir envie, surtout à son âge, de faire un an ou deux là pour aller au-dessus.
Saber est sur le coup, il va nous trouver.
Il y aura un mois d'août passionnant du côté du LOSC et puis une reprise de championnat, début de Ligue des Champions également passionnant pour les supporters des Dogs. Daniel Alves, c'est l'un ou l'autre, c'est proposé.
Si t'es pote avec lui, tu peux appeler Dani si tu veux.
Oui, si on est pote, mais moi je suis pas pote avec Daniel. Toi t'es pote avec Daniel Alves, mais pas moi. Donc je vais l'appeler Daniel. Daniel Alves s'est proposé au Barça.
Capitaine de la Copa América, vainqueur évidemment avec le Brésil cet été, il rêve de retrouver un club où il a tout gagné. C'est le FC Barcelone. C'est son rêve. À Daniel Alves, je l'appelle comme ça, selon nos infos, le Brésilien qui a proposé ses services au Barça, qui pour l'heure ne lui a pas fait de retour. Daniel Alves a également noué des contacts avec la Juve. Il espère trouver une solution très rapidement. Il dispose également de pistes au Brésil, mais aussi en Angleterre. Mais son rêve absolu, c'est de retrouver le FC Barcelone, un club qu'il adore.
Moi, je serais très très surpris qu'il revienne au FC Barcelone.
Pour l'instant, aucun retour. Tu commences à proposer tes services.
Ouais, c'est pas bon signe déjà. Même si c'est au FC Barcelone,
à l'image de Neymar, il n'est pas forcément parti en très bon terme avec le FC Barcelone.
Je suis pas certain.
À la Juve, il avait envoyé Dubois en disant qu'il était très déçu qu'il lui fasse pas.
Ouais, mais depuis, il avait quand même déclaré plus d'une fois en fait sa flamme au Barça à travers notamment un post sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines en disant voilà qu'il avait adoré son passage au FC Barcelone.
Envie d'y aller ou qui a pas envie d'y retourner à Barcelone quand tu y as été, honnêtement, voilà, après c'est effectivement comme dit Ludo, quand c'est toi qui te propose, c'est jamais très bon signe déjà.
Il a joué 8 ans en tout cas au Barça. Ça, ce qui explique peut-être aussi les liens forts entre Daniel Alves et le club de Barcelone. Tiemoué Bakayoko intéresse Everton, qui évidemment a perdu un meilleur récupérateur.
Ouais, la porte est ouverte pour Tiemoué Bakayoko, qui est revenu à Chelsea sous les ordres à présent de Frank Lampard. Il bénéficie d'un bon de sortie. Il a effectué une belle saison à l'AC Milan, c'était en prêt. Everton pense à lui pour pallier le départ d'Idrissa Gueye à Paris. Everton pense aussi à Jean-Philippe Gébamin de Mayence, notamment. Tiemoué Bakayoko est aussi dans le viseur d'un autre club anglais, c'est Manchester United.
Messieurs, Bakayoko, on le voyait aller très haut, très vite. Ça a un petit peu stagné. Il a besoin de se relancer. Everton, c'est la bonne équipe intermédiaire.
Il a eu des moments un peu difficiles, mais il était bien revenu. Après, voilà, il y a du caractère et donc à chaque fois, ça met un petit peu de. Voilà, il y a des petites choses qui se passent avec ses coachs, avec un peu les staffs, etc. Ça le plombe un petit peu, je trouve, à chaque fois. Mais
il était particulier, Gattuso, avec lui aussi.
Il y a ça aussi. La relation a fait que ce qui se passait, enfin le renouveau de Bakayoko. Sur le terrain, à nouveau du plomb dans l'aile en fin de saison. J'aime beaucoup comme joueur. Après, j'attends qu'il confirme avec régularité.
Avec le Paris Saint-Germain, il y avait quelque chose ou pas?
Oui, Leonardo, en tout cas, avait renoué différents contacts avec l'entourage, puisqu'on le sait, c'est lui qui l'avait fait venir déjà à l'AC Milan l'an dernier en prêt. Leonardo le suivait, il était intéressé à l'idée de le faire venir, mais Thomas Tuchel préférait un profil un petit peu plus défensif avec Idrissa Gueye et Leonardo a entendu et écouté son entraîneur et c'est bien sénégalais qui a signé.
Je pense au profil qu'ils ont raté et quand tu vois les joueurs ce qu'ils deviennent, je pense à Fabinho qu'ils ont raté Paris, ça aurait été
ils l'ont raté parce qu'au niveau du fair play financier ils pouvaient plus le faire puisqu'ils avaient décidé de faire Neymar, Mbappé, etc.
Même Thiago Mendes là, je le vois dans les matchs. Je le vois dans les matchs de prépa avec Lyon, Thiago Mendes.
Ouais, mais c'est parce que il y a eu une autre direction sur les choix du mercato et parfois ça devenait incohérent effectivement parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a eu un déséquilibre dans l'équipe du PSG. Les choix du mercato étaient pas les bons.
Mercredi, on parlera de Lyon puisque Lyon jouera l'un de ses derniers matchs de préparation face à Liverpool après un succès probant face à Arsenal hier. 22h56, c'est le mercato chaud dans l'after. N'hésitez pas à nous appeler parce que tout à l'heure, on va vous parler des dates justement du mercato. On va sortir du purement sport.
sportif et vous parler de ces dates à géométrie variable. On parlera également de Patrice Evra et puis appelez-nous si vous voulez participer au quiz de l'after. Tiens, petit indice, ce sera un quiz tonton Pat aujourd'hui pour ce qui est du quiz I love this game. Dernière info mon cher,
ça c'est pas nous qui sommes les plus calés dans la Dream Team.
Je vais aiguiller sur du facile quelque chose et en fait ce sera pas ça. Donc c'est le principe du contre-pied.
Si tu nous écoutes, tu veux participer au quiz.
Tous les auditeurs vont nous appeler, donc il peut nous appeler, il n'y a pas de problème. Dernière info, Benedetto à l'OM, on a l'impression que ça traîne, c'est pour quand?
Écoute, l'OM espère conclure le transfert cette semaine. Enfin, c'est l'ambition en tout cas des dirigeants marseillais. Quelques détails restent à conclure, mais en attendant, Boca fait comme si Dario Benedetto n'était plus un joueur de son effectif. Pourquoi ? Parce que le club argentin a publié le nom et les numéros de maillot de ses joueurs, et le numéro 9 de Benedetto a été réattribué à un autre joueur, à savoir Avila. Donc voilà, c'est quasiment acté. L'OM compte en tout cas, voilà, compte en tout cas sur ce transfert en fin de semaine, et pourquoi pas le présenter en même temps qu'Alvaro González.
C'est tout ce qu'on souhaite aux supporters de l'Olympique de Marseille. L'after va revenir dans quelques instants, je vous l'ai dit, on va jouer ensemble, on va parler des dates du mercato à géométrie variable. N'hésitez pas aussi, on en parlera demain, le hashtag mon joueur de cœur. Vous allez sur Twitter et vous nous dites quel est le joueur qui finalement vous a fait rêver. On n'est pas en train de vous parler du génie, on veut pas forcément que vous nous disiez Zidane, Platini, Di Stefano. Non, on veut le joueur qui a créé un petit quelque chose, un petit sentiment, un Michael Pagis, un Clermontois. Donne-nous un Clermontois.
Qui c'est que je peux te donner? Bernard Diomède.
Ouais. On n'est
pas loin du chouchou pas bon de l'after, sauf que là c'est pas forcément un pas bon quoi, c'est un chouchou.
C'est un chouchou, voilà, c'est le chouchou. Exactement. Mais
c'est le chouchou.
C'est le bon chouchou. On va quand même garder le hashtag mon joueur de cœur puisqu'on lancé. Il y a déjà plus de 500 réponses, ça marche très très bien sur Twitter. On en parle demain. L'after revient dans quelques secondes pour la deuxième heure avec le mercato, avec Patrice Evra, avec le quiz. À tout de suite.
Qu'est-ce que t'es beau, Timothée.
RMC l'after foot.